Le journal, Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Comment les informations sur les malades du Covid seront-elles collectées et conservées? Question ce matin sur le travail des brigades prévues dans le projet de loi présenté demain au Parlement et quelques inquiétudes également. Le début du déconfinement prévu à partir du 11 mai, mais le gouvernement prévient en cas de relâchement, il pourrait être repoussé. Déconfinement synonyme de tests et de masques pour tous. Recommandation hier de la Haute Autorité de Santé sur les tests sérologiques et des masques dès demain dans les grandes surfaces. Certains demandent leur gratuité. Des premières mesures pour la culture annoncée en milieu de semaine prochaine par le président de la République. La culture, état d'urgence, journée spéciale également sur Inter, mardi prochain. Au programme également à 8h20 avec vos invités, Pierre.
L'éditeur Antoine Gallimard et puis une libraire en Charente, Pauline Fouillet. Les librairies fermées depuis la mi-mars, le monde de l'édition sinistré, l'état des lieux de ce monde du livre brutalement paralysé, comment l'aider, le sauver, éviter des faillites d'éditeurs, comment prépare-t-on dans le monde de l'édition la réouverture des librairies, normalement, à partir du 11 mai? Autant de questions pour Antoine Gallimard et Pauline Fouillet et les vôtres au 01 45 24 7000. Le standard est à votre disposition.
Dans ce journal, vous entendrez également Vincent Message, l'un des concurrents du Livre Inter. Et puis la reprise du sport en club possible, normalement à partir du 11 mai, mais sous condition, elle n'est pas toujours évidente dans la pratique.
France Inter.
Le texte devrait être débattu demain au Sénat, mardi à l'Assemblée nationale. Projet de loi qui prolonge de 2 mois l'état d'urgence sanitaire décidé hier en Conseil des ministres. Parmi les mesures, un isolement pour les personnes qui arrivent sur le territoire national et sanctions en cas de refus. Précision également sur le suivi des patients pour briser les chaînes de contamination. En clair, les dispositifs de collecte d'informations, le traçage des malades et de leur entourage. Et le premier niveau de ce dispositif, Daniel Messager, c'est le médecin généraliste.
Dès le 11 mai, c'est auprès du médecin généraliste que commence le tracing de niveau 1. C'est lui qui va recevoir le patient qui présente les symptômes d'une contamination, qui va le faire entrer dans la chaîne de suivi. Docteur Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins généralistes MG France.
On identifie donc un cas diagnostiqué et à partir de là, on commence cette recherche. Ça n'est pas notre travail de faire une enquête approfondie, de prendre le téléphone, mais on repère dans l'entourage de ce patient quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'avoir été contaminées pour que on puisse protéger le maximum de personnes.
Le niveau 2, c'est l'assurance maladie. Le contact Covid se met en place avec une brigade d'au moins 5000 personnes pour rechercher et accompagner les cas contacts. Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, mais aussi membres de la Croix-Rouge qui seront formés. Marc Ziltmann, administrateur national.
Cette formation, c'est une formation avant tout pratique. Comment poser les bonnes questions? Comment réagir sur certaines situations qui peuvent être complexes? Le ministre a parlé de brigade d'ange gardien. Moi, c'est une expression qui me va bien. Ce que peut apporter la Croix-Rouge, c'est le fait de prendre soin, d'apporter de la confiance, de l'humanité dans une situation inédite et qui est anxiogène.
Il n'y aura pas de mesures coercitives pour les personnes positives à qui il sera demandé de s'isoler. Olivier Véran fait confiance à l'esprit de responsabilité des Français.
Daniel Messager. 2 fichiers seront donc créés pour recenser ceux et celles qui ont été en contact avec une personne infectée. Des données protégées qui ne seront partagées qu'entre professionnels de santé, promet le gouvernement. Mais dans ces brigades, ces milliers d'enquêteurs, il n'y a pas que des soignants. Des bénévoles ont souvent d'autres métiers. La question du respect du secret médical se pose. Serge Smadja, médecin généraliste et secrétaire général de SOS Médecins.
C'est un risque. Est-ce que ce risque est nécessaire dans cette crise sanitaire? Encore une fois, si c'est bien encadré et si les questions se limitent à l'objet de l'enquête, c'est-à-dire uniquement d'essayer de déterminer les sujets contacts, si c'est bien encadré et si on ne déborde pas le cadre de l'interrogatoire, comme ça me paraît nécessaire pour une des questions d'urgence de santé publique, ça me paraît envisageable.
Le coronavirus a tué 166 personnes de plus en 24 heures en France, selon le bilan d'hier soir. 24 760 depuis le 1er mars, amélioration dans les services de réanimation. Et puis plus de verre aussi hier soir sur la carte des départements, 47 au lieu de 41 vendredi soir. Les autorités restent toutefois très prudentes.
Estelle, la date de levée du confinement pourrait être remise en question.
Phrase à la une du quotidien Le Parisien aujourd'hui, prononcée par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le gouvernement redoute un relâchement avant le début du déconfinement. Certains d'ailleurs le constatent déjà dans les rues. Avertissement du ministre de la Santé nécessaire, selon Christian Bréchot, virologue et ancien directeur de l'INSERM.
on aborde une phase qui est à la fois très positive, mais très compliquée, qui est celle effectivement de décider du moment du déconfinement. Toutes ces décisions doivent être liées à l'évolution dans les prochaines semaines. Je suis en Floride, je suis également professeur à l'University of South Florida. On a exactement la même problématique. Le début du déconfinement a été annoncé pour lundi, mais tout va dépendre en fait de l'évolution des chiffres. On doit vraiment gérer cette phase d'une façon très pragmatique en tenant compte de l'évolution des chiffres, et je pense qu'il a parfaitement raison.
Christian Bréchot avec Olivier Delagarde, élément présenté comme essentiel au déconfinement, les tests. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a donné des recommandations hier sur l'usage des tests sérologiques de laboratoire faits à partir d'une prise de sang et qui permettent de voir si le patient a développé ou non les anticorps en réponse à l'infection. Eh bien, la Haute Autorité de Santé, Véronique Julia, reste prudente.
La Haute Autorité de Santé le déclare d'emblée. Pour l'instant, on ne peut pas attendre de ces tests qu'ils nous ouvrent une sorte de passeport immunitaire et nous fournissent la preuve qu'une première infection nous délivre totalement du risque de retomber malade. On ne sait pas encore avec certitude si les anticorps nous protègent, ni même combien de temps ils nous protègent. Partant de là, ça ne servira à rien de tester tout le monde pour espérer classer la France en deux, avec les immunisés d'un côté et ceux qui ne le sont pas de l'autre. À ce stade de nos connaissances, ces tests n'en sont pas moins utiles, explique l'autorité. D'abord d'un point de vue épidémiologique, pratiqués sur des échantillons de population, ils permettent de dresser une cartographie de la circulation du virus. Ils peuvent également compléter un diagnostic, servir d'arbitre si par exemple le scanner d'un patient et son test virologique ne donnent pas les mêmes résultats, ou si un patient qui a eu des symptômes mais pas de test ou un test négatif veut savoir s'il s'agissait bien du Covid. Enfin, pour les soignants ou les personnels qui travaillent en hébergement collectif comme les EHPAD et qui n'auraient pas de symptômes, ça peut servir d'outil préventif pour placer d'éventuels contacts à l'isolement. Attention, prévient la Haute Autorité de Santé, ces tests ne doivent se faire que sur ordonnance et au moins 7 jours après les premiers symptômes, le temps que les anticorps fassent leur apparition.
Véronique, Julia, et autre outil indispensable au déconfinement, le masque vendu dès demain dans les grandes surfaces, masque en tissu ou chirurgical, colère, on l'a vu, des professionnels de santé, la grande distribution accusée d'avoir des stocks cachés et qui se défend, polémique nulle pour le patron Michel-Édouard Leclerc, nos commandes de masques chirurgicaux datent d'après le 24 avril, jour de l'autorisation gouvernementale, assure le PDG de Système U, et des voix désormais qui s'élèvent chez les politiques pour demander à ce que ces masques soient gratuits, Maxence Lambrecq.
Leur prix de vente vient d'être plafonné maximum 95 centimes pour un masque à usage unique. Et la grande distribution promet de ne pas se faire de marge et compte vendre en moyenne 50 masques pour 30 euros. Dans une famille, 50 masques, ça va partir très vite, alerte la sénatrice du mouvement radical Nathalie Delattre.
On va devoir en utiliser beaucoup dans une journée. On nous annonce pour les enfants qui vont retourner au collège, c'est minimum 4, etc. Donc aujourd'hui, nous avons des millions de Français qui sont en chômage partiel et on s'aperçoit que ce budget des masques va devenir conséquent dans un ménage. Ça va être énorme comme charge.
Potentiellement une centaine d'euros par mois, sans compter le gel hydroalcoolique. Et pour le sénateur socialiste et ancien ministre Patrick Canet, l'État n'est plus à sa près.
Quand on est aujourd'hui à une décroissance de 8%, quand on est à 115% de dette publique par rapport au produit intérieur brut, eh bien on peut trouver quelques centaines de millions pour permettre aux Français, à tous les Français, de pouvoir accéder à ce bien aujourd'hui indispensable, un bien peut-être même vital que représentent les masques. L'égalité républicaine passe par la gratuité des masques pour tous.
Le gouvernement répond que les plus précaires et toutes les personnes à risque en bénéficieront gratuitement et que de nombreuses collectivités locales et entreprises en distribuent également.
Maxence Lambrecq.
Les chiffres sont clairs, Estelle Schmitt, la crise sanitaire fait des ravages dans les entreprises.
SNCF, 2 milliards d'euros de manque à gagner, de nombreuses filières en difficulté. Gros plan ce matin sur les producteurs de cidre, chiffre d'affaires divisé par deux depuis le début de la crise, d'autant qu'ils livrent café et restaurant et que cette boisson considérée comme festive n'est pas très prisée en ce moment. Et pourtant, la récolte de pommes s'annonce particulièrement bonne cette année, Emmanuel Ruffès.
C'est un coup terrible porté à cette filière qui commençait à peine à se reconstruire après plusieurs décennies de chute libre. Avec un niveau d'exigence plus élevé, les producteurs ont fini par retrouver une clientèle et une croissance enfin positive. Mais avec la fermeture des cafés-restaurants, le tourisme à l'arrêt, s'ajoute même la baisse des ventes en grande et moyenne surface. Marc Roubaud, le président de la filière.
Il faut reconnaître qu'on n'est pas un produit aussi important en volume, donc peut-être aussi essentiel que l'est, ne serait-ce que la bière par exemple. Et donc on subit une vraie baisse qui se situe entre moins 17 et moins 25%.
Pire encore, la saison s'annonce magnifique pour la récolte des pommes à cidre à l'automne. Mais qu'en faire dans ces conditions, s'interroge Nicolas Poirier, producteur de cidre en Bretagne.
Les cuves restent pleines, les bouteilles ne s'écoulent pas. Tous les agriculteurs qui nous fournissent en panne à cidre ne vont pas pouvoir en partie vendre cette production cette année, puisque s'il n'y a plus de place dans les caves, on ne peut pas les rentrer. Et ça risque d'entraîner un effondrement du cours des fruits à cidre, ce qui va être dramatique pour les agriculteurs avec qui on travaille.
Et comme le cidre, contrairement au vin, ne se conserve pas, les producteurs demandent d'ores et déjà des mesures de retrait des surplus pour du cidre en cuve, mais aussi pour environ 100 000 tonnes de pommes à cidre.
Manuel Ruffez, le sport et la promenade à nouveau autorisés depuis hier en Espagne, déconfinement progressif et très encadré, alors que plus de 25 000 personnes sont mortes et comme en France, des zones du pays totalement épargnées par le coronavirus. Direction la Sierra de Madrid, région montagneuse aux portes de la capitale, aucun cas recensé dans 14 villages. Isabelle Labéry s'y est rendue pour France Inter.
À 1000 mètres d'altitude, Villa Vieja, 350 habitants, ses ruelles en pierre, son air vif et aucun cas de coronavirus. La maire a réagi très vite.
Nous, on a tout de suite fermé la mairie. Ça a bien aidé, je pense, parce que tout le monde vient ici.
Et même s'ils peuvent désormais sortir, les habitants ne s'autorisent aucun écart.
Moi, je reste à la maison. Si on veut que tout ça se termine, on doit respecter ce qu'on nous dit.
Mais oui, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand, mais ça va s'arrêter.
Maria Cano, maire de Robrigordo, est moins optimiste. Après le déconfinement, dit-elle, les madrilènes vont se ruer dans la Sierra et le virus avec eux.
Oui, j'ai peur que tous ces gens débarquent alors qu'on n'a pas les moyens de les contrôler. Parce que le virus sera toujours là. On va avoir besoin d'aide ces prochains mois.
Chez la pharmacienne, la radio diffuse « Je résisterai », devenu le symbole du combat contre le coronavirus. Et c'est ce qu'on doit faire, dit-elle. Résister. Dans la Sierra de Madrid, Benjamin Thuot, Isabelle Labéry, France Inter.
Voilà, résister. Et au Royaume-Uni, plus de 28 000 morts. Royaume-Uni, où l'on apprend que les médecins chargés de traiter Boris Johnson atteint par le coronavirus avaient préparé l'annonce de sa mort. C'est le Premier ministre qui le raconte ce matin au tabloïd de Sun on Sunday. À l'étranger, hors Covid, ces coups de feu tirés par la Corée du Nord en direction de la Corée du Sud au niveau de la zone démilitarisée, l'armée sud-coréenne a riposté.
Retour en France, Estelle, où la pratique du sport en club devrait être possible à partir du 11 mai.
Oui, annonce hier de la ministre des Sports, mais à condition de respecter les précautions sanitaires, pas forcément faciles à appliquer dans certains sports et les contraintes ne sont pas les mêmes. Des questions se posent, Jean-Pierre Blimaud.
C'est une sorte de téléthon sur Internet mis en place par la Ligue de rugby et cette association, les Petits Frères des Pauvres. Les réseaux sociaux les plus populaires seront utilisés. On y verra au moins un joueur de chaque équipe du top 14 s'exprimer sur le confinement, mais aussi sur les valeurs du rugby, sport où le collectif est primordial. L'entraîneur de Clermont sera également présent. Des petits défis pourront être lancés. Thomas Auton, porte-parole de la Ligue nationale de rugby.
Les visioconférences, tout le monde en fait. C'est quelque chose qui fonctionne bien. L'originalité, c'est qu'on va faire tout ça sur une seule et même journée avec énormément d'acteurs différents pour occuper ces 8 heures de live.
Il s'agit avant tout de récolter des fonds pour les Petits Frères des Pauvres, cette association forte de 14 000 bénévoles qui rendent visite toute l'année à des personnes âgées un peu partout en France. Tous s'attendent d'ailleurs à devoir redoubler d'attention après le confinement. Jean-Louis Watty, délégué général adjoint de l'association.
D'abord, ça va nous donner des moyens pour inventer plein de formes d'action. C'est aussi pour manifester que ces personnes peuvent être en contact avec la vraie vie et rapprocher les personnes âgées enfermées comme elles le sont aujourd'hui du sport. C'est quand même assez génial.
Des artistes comme le groupe Arcadian ou DJ Keops, issus du groupe IAM, vont se produire gratuitement autour du youtubeur Gonzague comme maître de cérémonie.
Voilà, Jean-Pierre Blimaud avec, vous l'avez compris, cette récolte de fonds pour les Petits Frères des Pauvres avec des rugbymen. Et c'est cet après-midi de 14h à 22h. On a appris la mort du chanteur Idir, figure dans le monde de la chanson kabyle. Il avait 70 ans. Le monde de la culture à l'arrêt, en grande difficulté avec la crise du coronavirus. Première décision annoncée pour mercredi par Emmanuel Macron sur Twitter hier. Et l'édition 2020 du Livre Inter, maintenue malgré tout. D'ailleurs, tous les week-ends, rencontre avec l'un des 10 auteurs en compétition. Ce matin, Vincent Message pour son roman « Cora dans la spirale » aux éditions du Seuil. L'histoire d'une femme cadre dans une grande société plongée dans le monde féroce de l'entreprise. Vincent Message.
La manière dont les grandes entreprises affectent nos vies jusqu'au plus intime, régissent les règles sociales,
dont un travail qui est comme ça restructuré assez violemment, ça peut venir perturber jusqu'à notre vie privée, nos rêves, nos nuits. J'avais envie de dire tout ça en racontant à la fois l'histoire d'une femme et celle de l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est pas facile de saisir le monde du travail en littérature parce que c'est des structures souvent complexes avec beaucoup d'acteurs. Mais en même temps, moi, ça me paraissait pouvoir être un formidable terrain romanesque parce qu'il y a des jeux de pouvoir et de séduction, parce qu'il y a des gens qui mentent, d'autres qui chutent. Et donc, j'avais envie que pour Cora, l'intrigue soit comme ça une sorte d'échiquier. Donc, c'est un roman où il y a une perspective multiple. On suit le point de vue de pas mal de gens autour d'elle parce que je voulais pas faire quelque chose de manichéen. Je voulais qu'on entre dans les raisons de chacun, qu'on voit ce qui le contraint. À quel moment, en fait, cette vague de la réorganisation, cette vague du management le soulève dans sa vie et quel degré de violence les gens sont prêts à subir et parfois aussi à infliger autour d'eux pour se maintenir en place ou pour continuer à monter.
Vincent Message avec Eva Béton et lauréat du livre Inter désigné le 8 juin prochain.
C'était le journal d'Estelle Schmitt et les prévisions météo.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Le temps aujourd'hui avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une grande partie du pays se réveille sous les nuages, avec des pluies faibles de la vallée de la Seine au centre, sur la Bourgogne et en Auvergne-Rhône-Alpes. En journée, des pluies ou des ondées vont se développer au nord de la Seine, puis jusqu'à la frontière allemande en soirée, tandis que plus au sud, les précipitations vont disparaître dès le milieu de la matinée, mais sous un ciel globalement chargé sur l'ensemble des deux tiers nord, plus dégagé de l'Aquitaine à la Méditerranée. Cet après-midi, il est prévu 14 à 17 degrés du nord de la Seine au Grand Est, 20 sur le centre Val-de-Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes, 20 à 25 de l'intérieur de la Bretagne au sud-ouest et 25 à 27 degrés autour de la Méditerranée. Notez le maintien pour quelques heures encore de la vigilance précipitation sur les trois départements des Alpes du Nord et du risque de crue sur les bassins de l'Arve et de l'Isère.